Chapitre 15 et suivant. Il fallait vider les prisons qui regorgeaient. Il fallait juger, juger sans repos ni trêve. Assis contre les murailles, tapissés de faisceaux et de bonnets rouges, comme leurs pareils sur les fleurs de lys, les juges gardaient la gravité et la tranquillité terrible de leurs prédécesseurs royaux. L'accusateur public et ses substituts, épuisés de fatigue, brûlés d'insomnie et d'eau de vie, ne secouaient leur accablement que par un violent effort, et leur mauvaise santé les rendait tragiques. Les jurés, divers d'origine et de caractère, les uns instruits, les autres ignares, lâches ou généreux, doux ou violents, hypocrites ou sincères, mais qui tous, dans le danger de la patrie et de la République, sentaient ou feignaient de sentir les mêmes angoisses, de brûler les mêmes flammes, tous atroces de vertu ou de peur, ne formaient qu'un seul être, une seule tête sourde, irritée, une seule âme, une bête mystique, qui, par l'exercice naturel de ses fonctions, produisait abondamment la mort. Bienveillants ou cruels par sensibilité, secoués soudain par un brusque mouvement de pitié, ils acquittaient avec des larmes un accusé qu'ils eussent une heure auparavant condamné avec des sarcasmes. Et à mesure qu'ils avançaient dans leur tâche, ils suivaient plus impétueusement les impulsions de leur cœur. Ils jugeaient dans la fièvre, dans la somnolence que leur donnait l'excès de travail, sous les excitations du dehors et des ordres du souverain, sous les menaces des sans-culottes et des tricoteuses passées dans les tribunes et l'enceinte publique, d'après des témoignages forcenés sur des réquisitoires frénétiques, dans un air empesté qui appesantissait les cerveaux, faisait bourdonner les oreilles et battre les tempes, et mettait un voile de sang sur les yeux. Des bruits vagues couraient dans le public sur des jurés corrompus par l'or des accusés. Mais à ces rumeurs, le jury tout entier répondait par des protestations indignées et des condamnations impitoyables. Enfin, c'étaient des hommes, ou ni pires ni meilleurs que les autres. L'innocence, le plus souvent, est un bonheur et non pas une vertu. Quiconque eût accepté de se mettre à leur place eût agi comme eux et accompli d'une âme médiocre ces tâches épouvantables. Antoinette, tant attendue, vint enfin s'asseoir en robe noire dans le fauteuil fatal, au milieu d'un tel concert de haine que seule la certitude de l'issue qu'aurait le jugement en fit respecter les formes. Aux questions mortelles, l'accusé répondit tantôt avec l'instinct de la conservation, tantôt avec sa hauteur accoutumée, et une fois, grâce à l'infamie de ses accusateurs, avec la majesté d'une mère. L'outrage et la calomnie seuls étaient permis aux témoins. La défense fut glacée d'effroi. Le tribunal, se contraignant à juger dans les règles, attendit que tout cela fût fini pour jeter la tête de l'Autrichienne à l'Europe. 3 jours après l'exécution de Marie-Antoinette, Gamelin fut appelé auprès du citoyen fortuné Trubert, qui agonisait à 30 pas du bureau militaire où il avait épuisé sa vie, sur un lit de sangle, dans la cellule de quelques barnabites expulsés. Sa tête livide creusait l'oreiller. Ses yeux, qui ne voyaient déjà plus, tournèrent leurs prunelles vitreuses du côté des varistes. Sa main desséchée saisit la main de l'ami et la pressa avec une force inattendue. Il avait eu 3 vomissements de sang en 2 jours. Il essaya de parler. Sa voix, d'abord voilée et faible comme un murmure, s'enfla, grossit. Vatigny, Vatigny, Jourdan a forcé l'ennemi dans son camp, débloqué Maubeuge. Nous avons repris Vanchaine, ça ira, ça ira. Et il sourit. Ce n'étaient pas des songes de malade. C'était une vue claire de la réalité qui illuminait alors ce cerveau sur lequel descendaient les ténèbres éternelles. Désormais, l'invasion semblait arrêtée. Les généraux, terrorisés, s'apercevaient qu'ils n'avaient pas mieux à faire que de vaincre. Ce que les enrôlements volontaires n'avaient point apporté, une armée nombreuse et disciplinée, la réquisition le donnait. Encore un effort et la République serait sauvée. Après une demi-heure d'anéantissement, le visage de Fortuné Trubert, creusé par la mort, se ranima, ses mains se soulevèrent. Il montra du doigt à son ami le seul meuble qu'il eut dans sa chambre, un petit secrétaire de noyer, et de sa voix haletante et faible, que conduisit à un esprit lucide. « Mon ami, comme Palamidas, je te lègue mes dettes. 325 livres d'or, tu trouveras le compte dans ce cahier rouge. Adieu, Gamelin. Ne t'endors pas. Veille à la défense de la République. Ça ira. » L'ombre de la nuit descendait dans la cellule. On entendit le mourant pousser un souffle embarrassé et ses mains qui grattaient le drap. À minuit, il prononça des mots sans suite. « Encore du salpêtre. Faites livrer les fusils. La santé est très bonne. Descendez ces cloches. » Il expira à 5 heures du matin. Par ordre de la section, son corps fut exposé dans la nef de la ci-devant église des Barnabites, au pied de l'autel de la patrie, sur un lit de camp, le corps recouvert d'un drapeau tricolore et le front ceint d'une couronne de chêne. 12 vieillards, vêtus de la toge latine, une palme à la main, 12 jeunes filles, traînant de longs voiles et portant des fleurs, entouraient le lit funèbre. Au pied du mort, 2 enfants tenaient chacun une torche renversée. Évariste reconnut en l'un d'eux la fille de sa concierge, Joséphine, qui par sa gravité enfantine et sa beauté charmante lui rappela ces génies de l'amour et de la mort que les Romains sculptaient sur leurs sarcophages. Le cortège se rendit au cimetière Saint-André-des-Arts, au chant de la Marseillaise et du Ça ira. En mettant le baiser d'adieu sur le front de Fortuné Trubert, Évariste pleura. Il pleura lui-même, enviant celui qui se reposait, sa tâche accomplie. Rentré chez lui, il reçut l'avis qu'il était nommé membre du Conseil général de la Commune. Candidat depuis 4 mois, il avait été élu sans concurrent, après plusieurs scrutins, par une 30aine de suffrages. On ne votait plus. Les sections étaient désertes. Riches et pauvres ne cherchaient qu'à se soustraire aux charges publiques. Les plus grands événements n'excitaient plus ni enthousiasme ni curiosité. On ne lisait plus les journaux. Évariste doutait si, sur les 700 000 habitants de la capitale, 3 ou 4 000 seulement avaient encore l'âme républicaine. Ce jour-là, les 21 comparurent. Innocents ou coupables des malheurs et des crimes de la République, vains, imprudents, ambitieux et légers, à la fois modérés et violents, faibles dans la terreur comme dans la clémence, prompts à déclarer la guerre, lents à la conduire, traînés au tribunal sur l'exemple qu'ils avaient donné, ils n'étaient pas moins la jeunesse éclatante de la Révolution. Ils en avaient été le charme et la gloire. Ce juge, qui va les interroger avec une partialité savante, ce blême accusateur qui, là, devant sa petite table, prépare leur mort et leur déshonneur, ces jurés qui voudront tout à l'heure étouffer leur défense, ce public des tribunes qui les couvre d'invectives et de huées, juges, jurés, peuple, On a guère applaudi leur éloquence, célébré leur talent, leur vertu. Mais ils ne se souviennent plus. Évariste avait fait jadis son dieu de Vergniaud, son oracle de Brissot. Il ne se rappelait plus. Et s'il restait dans sa mémoire quelques vestiges de son antique admiration, c'était pour concevoir que ces monstres avaient séduit les meilleurs citoyens. En rentrant après l'audience dans sa maison, Gamelin entendit des cris déchirants. C'était la petite Joséphine que sa mère fouettait pour avoir joué sur la place avec des polissons et sali la belle robe blanche qu'on lui avait mise pour la pompe funèbre du citoyen Trubert. Chapitre 16. Après avoir, durant 3 mois, sacrifié chaque jour à la patrie des victimes illustres ou obscures, Évariste eut un procès à lui. D'un accusé, il fit son accusé. Depuis qu'il siégeait au tribunal, il épiait avidement dans la foule des prévenus qui passaient sous ses yeux le séducteur d'Élodie, dont il s'était fait, dans son imagination laborieuse, une idée dont quelques traits étaient précis. Il le concevait jeune, beau, insolent, et se faisait une certitude qu'il avait émigré en Angleterre. Il crut le découvrir en un jeune émigré nommé Maubel, qui, de retour en France et dénoncé par son hôte, avait été arrêté dans une auberge de Passy et dont le parquet de Fouquier-Tinville instruisait l'affaire avec 1000 autres. On avait saisi sur lui des lettres que l'accusation considérait comme les preuves d'un complot ourdi par Maubel et les agents de Pitt, mais qui n'étaient en fait que des lettres écrites à l'émigré par des banquiers de Londres chez qui il avait déposé des fonds. Maubel, qui était jeune et beau, paraissait surtout occupé de galanterie. On trouvait dans son carnet traces de relations avec l'Espagne, alors en guerre avec la France, et ses lettres, à la vérité, étaient d'ordre intime, et si le marquis ne rendit pas une ordonnance de non-lieu, ce fut en vertu de ce principe que la justice ne doit jamais se hâter de relâcher un prisonnier. Gamelin eut communication du premier interrogatoire subi par Maubel en chambre du conseil, et il fut frappé du caractère du jeune ci-devant, qui se figurait conforme à celui qu'il attribuait à l'homme qui avait abusé de la confiance d'Élodie. Dès lors, enfermé pendant de longues heures dans le cabinet du greffier, il étudia le dossier avec ardeur. Ses soupçons s'accrurent étrangement quand il trouva dans un calepin déjà ancien de l'émigré l'adresse de l'amour-peintre, jointe, il est vrai, à celle du singe vert, du portrait de la ci-devant dauphine et de plusieurs autres magasins d'estampes et de tableaux. Mais quand il eut appris qu'on avait recueilli dans ce même calepin quelques pétales d'un œillet rouge, recouverts avec soin d'un papier de soie, songeant que l'œillet rouge était la fleur préférée d'Élodie, qui la cultivait sur sa fenêtre, la portait dans ses cheveux, la donnait, il le savait, en témoignage d'amour, Évariste ne douta plus. Alors, c'est en fait une certitude, il résolut d'interroger Élodie, en lui cachant toutefois les circonstances qui lui avaient fait découvrir le criminel. Comme il montait l'escalier de sa maison, il sentit dans les paliers inférieurs une entêtante odeur de fruits et trouva dans l'atelier Élodie qui aidait la citoyenne Gamelin à faire de la confiture de coin. Tandis que la vieille ménagère, allumant le fourneau, méditait dans son esprit les moyens d'épargner le charbon et la cassonade sans nuire à la qualité de la confiture, la citoyenne Blaise, sur sa chaise de paille, ceinte d'un tablier de toile bise, des fruits d'or plein son giron, pelait les coins et les jetait par quartier dans une bassine de cuivre. Les barbes de sa coiffe étaient rejetées en arrière, ses mèches noires se tordaient sur son front moite. Il émanait d'elle un charme domestique et une grâce familière qui inspiraient les douces pensées et la tranquille volupté. Elle leva, sans bouger, sur son amant son beau regard d'or fondu et dit « Voyez, Évariste, nous travaillons pour vous. Vous mangerez tout l'hiver d'une délicieuse gelée de coing qui vous affermira l'estomac et vous rendra le cours gai. » Mais Gamelin, s'approchant d'elle, lui prononça ce nom à l'oreille. « Jacques Maubel !» À ce moment, le savetier Gombalot vint montrer son nez rouge par la porte entrebâillée. Il apportait, avec des souliers auxquels il avait remis des talons, la note de ses ressemblages. De peur de passer pour un mauvais citoyen, il faisait usage du nouveau calendrier. La citoyenne Gamelin, qui aimait à voir clair dans ses comptes, se perdait dans le fructidor et les vendémiaires. Elle soupira. « Jésus, ils veulent tout changer, les jours, les mois, les saisons, le soleil et la lune. Seigneur Dieu, monsieur Combalot, qu'est-ce que c'est que cette paire de galoches du 8 vendémiaire ?»« Mais citoyenne, jetez les yeux sur votre calendrier pour vous rendre compte. » Elle le décrocha, y jeta les yeux, et les détournant aussitôt. « Il n'a pas l'air chrétien !» fit-elle épouvantée. « Oh, non seulement cela, citoyenne, dit le savetier, mais nous n'avons plus que 3 dimanches au lieu de 4. Et c'est pas tout, il va falloir changer notre manière de compter. Il n'y aura plus de liards ni de deniers, tout sera réglé sur l'eau distillée. » À ces paroles, la citoyenne Gamelin, les lèvres tremblantes, leva les yeux au plafond et soupira. Oh, ils en font trop! Et tandis qu'elle se lamentait, semblable aux saintes femmes des calvaires rustiques, un fumeron allumé en son absence dans la braise remplissait l'atelier d'une vapeur infecte qui, jointe à l'odeur entêtante des coins, rendait l'air irrespirable. Élodie se plaignit que la gorge lui grattait et demanda qu'on ouvrît la fenêtre. Mais dès que le citoyen savetier eut pris congé et que la citoyenne Gamelin eut regagné son fourneau, Évariste répéta ce nom à l'oreille de la citoyenne Blaise. « Jacques Maubel !» Elle le regarda avec un peu de surprise et très tranquillement, sans cesser de couper un coin en quartier, « Eh bien, Jacques Maubel, c'est lui ?»« Qui, lui ?»« Tu lui as donné un œillet rouge ?» Elle déclara ne pas comprendre et lui demanda qu'il s'expliquât. « Mais cet aristocrate, cet émigré, cet infâme !» Elle haussa les épaules et nia avec beaucoup de naturel avoir jamais connu un Jacques Maubel. Et vraiment, elle n'en avait jamais connu. Elle nia avoir jamais donné d'œillet rouge à personne qu'à Évariste. Mais peut-être sur ce point n'avait-elle pas très bonne mémoire. Il connaissait mal les femmes et n'avait pas pénétré bien profondément le caractère d'Élodie. Pourtant, il la pensait très capable de feindre et de tromper un plus habile que lui. « Mais pourquoi nier ? » dit-il. « Je sais. » Elle affirma de nouveau n'avoir connu aucun Maubel. Ayant fini de peler ses coins, elle demanda de l'eau parce que ses doigts poissaient. Gamelin lui apporta une cuvette. Et en se lavant les mains, elle renouvela ses dénégations. Il répéta encore qu'il savait, et cette fois, elle garda le silence. Elle ne voyait pas où tendait la question de son amant et était à mille lieues de soupçonner que ce Maubel dont elle n'avait jamais entendu parler dut comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Elle ne comprenait rien aux soupçons dont on l'obsédait, mais elle les savait mal fondés. C'est pourquoi, n'ayant guère d'espoir de les dissiper, elle n'en avait guère envie non plus. Elle cessa de se défendre d'avoir connu un Maubel, préférant laisser le jaloux s'égarer sur une fausse piste, quand, d'un moment à l'autre, le moindre incident pouvait la mettre sur la véritable voie. Son petit clerc d'autrefois, devenu un joli dragon patriote, était brouillé maintenant avec sa maîtresse aristocrate. Quand il rencontrait Élodie dans la rue, il la regardait d'un œil qui semblait dire « Allô, ta belle, oh, je sens bien que je vais vous pardonner de vous avoir trahi et que je suis tout prêt de vous rendre mon estime. » Elle ne fit donc plus effort pour gémir ni pour guérir ce qu'elle appelait les lubies de son ami. Gamelin garda la conviction que Jacques Maubel était le corrupteur d'Élodie. Les jours qui suivirent, le tribunal s'occupa sans relâche d'anéantir le fédéralisme qui, comme une hydre, avait menacé de dévorer la liberté. Ce furent des jours chargés, et les jurés, épuisés de fatigue, expédièrent le plus rapidement possible la femme Roland, instigatrice ou complice des crimes de la faction brissotine. Cependant, Gamelin passait chaque matin au parquet pour presser l'affaire Maubel. Des pièces importantes étaient à Bordeaux. Il obtint qu'un commissaire les irait chercher en poste. Elles arrivèrent enfin. Le substitut du persécuteur public, l'élu, fit la grimace et dit à Évariste « Bon, ce ne sont pas fameuses les pièces. Il n'y a rien là-dedans, des fadaises. Si j'étais seulement certain que ce ci-devant comte de Maubel a émigré. » Enfin, Gamelin réussit. Le jeune Maubel reçut son acte d'accusation et fut traduit devant le tribunal révolutionnaire le 19 Brumaire. Dès l'ouverture de l'audience, le président montra le visage sombre et terrible qu'il avait soin de prendre pour conduire les affaires mal instruites. Le substitut de l'accusateur se caressait le menton des barbes de sa plume et affectait la sérénité d'une conscience pure. Le greffier lut l'acte d'accusation. On n'en avait pas encore entendu de si creux. Le président demanda à l'accusé s'il n'avait pas eu connaissance des lois rendues contre les émigrés. « Je les ai connues, observées, » répondit Maubel, « et j'ai quitté la France muni de passeports en règle. » Sur les raisons de son voyage en Angleterre et de son retour en France, il s'expliqua d'une manière satisfaisante. Sa figure était agréable, avec un air de franchise et de fierté qui plaisait. Les femmes des tribunes le regardaient d'un œil favorable. L'accusation prétendait qu'il avait fait un séjour en Espagne dans le moment où déjà cette nation était en guerre avec la France. Il affirma n'avoir pas quitté Bayonne à cette époque. Un point seul restait obscur. Parmi les papiers qu'il avait jetés dans sa cheminée lors de son arrestation, et dont on n'avait retrouvé que des bribes, on lisait des mots espagnols et le nom de Nieves. Jacques Maubel refusa de donner à ce sujet les explications qui lui étaient demandées. Et quand le président lui dit que l'intérêt de l'accusé était de s'expliquer, il répondit qu'on ne doit pas toujours suivre son intérêt. Gamelin ne songeait à convaincre Maubel que d'un crime. Par trois fois, il pressa le président de demander à l'accusé s'il pouvait s'expliquer sur l'œillet dont il gardait si précieusement dans son portefeuille les pédales desséchées. Maubel répondit qu'il ne se croyait pas obligé de répondre à une question qui n'intéressait pas la justice, puisqu'on n'avait pas trouvé de billets cachés dans cette fleur. Le jury se retira dans la salle des délibérations, favorablement prévenu en faveur de ce jeune homme dont l'affaire obscure semblait surtout cacher des mystères amoureux. Cette fois, les bons et purs eux-mêmes eussent volontiers acquitté. L'un d'eux, un ci-devant, qui avait donné des gages à la Révolution, dit Est-ce à la naissance qu'on lui reproche? Moi aussi, j'ai eu le malheur de naître dans l'aristocratie. Oui, mais tu en es sorti, répliqua Gamelin, et il y est resté. Et il parla avec une telle véhémence contre ce conspirateur, cet émissaire de Pitt, ce complice de Cobourg, qui était allé par-delà les monts et par-delà les mers, susciter des ennemis à la liberté. Il demanda si ardemment la condamnation du traître qu'il réveilla l'humeur, toujours inquiète, la vieille sévérité des jurés patriotes. L'un d'eux, cyniquement, lui dit « Bon, il y a des services qu'on peut se refuser entre collègues. » Et le verdict de mort fut rendu à une voix de majorité. Le condamné entendit sa sentence avec une tranquillité souriante. Ses regards, qu'il promenait paisiblement sur la salle, exprimèrent en rencontrant le visage de Gamelin un indicible mépris. Personne n'applaudit la sentence. Jacques Maubel, reconduit à la conciergerie, écrivit une lettre en attendant l'exécution qui devait se faire le soir même au flambeau. « Ma chère sœur, le tribunal m'envoie à l'échafaud, me donnant la seule joie que je pouvais ressentir depuis la mort de ma nièce adorée. Ils m'ont pris le seul bien qui me restait d'elle, une fleur de grenadier qu'ils appelaient, je ne sais pourquoi, un œillet. J'aimais les arts. À Paris, dans les temps heureux, j'ai recueilli des peintures et des gravures qui sont maintenant en lieu sûr et qu'on te remettra dès qu'il sera possible. Je te prie, chère sœur, de les garder en mémoire de moi. » Il se coupa une mèche de cheveux, la mit dans la lettre qu'il plia et écrivit la souscription à la citoyenne Clémence des Émeries, née Maubel, la Réole. Il donna tout ce qu'il avait d'argent sur lui au porte-clés en le priant de faire parvenir cette lettre, demanda une bouteille de vin et but à petits coups en attendant la charrette. Après souper, Gamelin courut à l'amour peintre et bondit dans la chambre bleue où chaque nuit l'attendait Élodie. « Tu es vengé, lui dit-il. Jacques Maubel n'est plus. La charrette qu'il conduisait à la mort a passé sous des fenêtres, entourée de flambeaux. » Elle comprit. « Misérable, mais c'est toi qui l'as tué ? Mais ce n'était pas mon amant, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais quel homme était-ce? Il était jeune, aimable, innocent, et tu l'as tué, misérable, oh misérable !» Elle tomba évanouie. Mais dans les ombres de cette mort légère, elle se sentait inondée en même temps d'horreur et de volupté. Elle se ranima à demi. Ses lourdes paupières découvraient le blanc de ses yeux. Sa gorge se gonflait, ses mains battantes cherchaient son amant. Elle le pressa dans ses bras, l'étouffait, lui enfonça les ongles dans la chair et lui donna de ses lèvres déchirées le plus muet, le plus sourd, le plus long, le plus douloureux et le plus délicieux des baisers. Elle l'aimait de toute sa chair. Et plus il lui apparaissait terrible, cruel, atroce, plus elle le voyait couvert du sang de ses victimes, plus elle avait faim et soif de lui. Chapitre 17. Le 24 frimaire, à 10 heures du matin, sous un ciel vif et rose qui fondait les glaces de la nuit, les citoyens Guénaud et Delourmel, délégués du comité de sûreté générale, se rendirent au Barnabite et se firent conduire au comité de surveillance de la section dans la salle capitulaire où se trouvait pour lors le citoyen Beauvisage qui fourrait des bûches dans la cheminée. Mais ils ne le virent point d'abord à cause de sa stature brève et ramassée. De sa voix fêlée des bossus, le citoyen Beauvisage pria les délégués de s'asseoir et se mit tout à leur service. Guénaud lui demanda s'il connaissait un ci-devant Désilette, demeurant près du Pont-Neuf. « C'est, ajouta-t-il, un individu que je suis chargé d'arrêter. » Et il exhiba l'ordre du comité de sûreté générale. Beau visage, ayant en quelque temps cherché dans sa mémoire, répondit qu'il ne connaissait point l'individu nommé Desilette, que le suspect ainsi désigné pouvait ne point habiter la section. Certaines parties du muséum de l'unité de Marat et Marseille se trouvant aussi à proximité du Pont-Neuf, et que, s'il habitait la section, ce devait être sous un autre nom que celui que portait l'ordre du comité, mais que néanmoins on ne tarderait pas à le découvrir. « Ne perdons point de temps, » dit Guénaud. Il fut signalé à notre vigilance par une lettre d'une de ses complices qui a été interceptée et remise au comité. Il y a déjà 15 jours, et dont le citoyen Lacroix a pris connaissance hier soir seulement. Oh, nous sommes débordés. Les dénonciations nous arrivent de toutes parts, en telle abondance qu'on ne sait à qui entendre. Les dénonciations, répliqua fièrement Beauvisage, affluent aussi au comité de vigilance de la section. Les uns portent leur révélation par civisme, les autres par l'appât d'un billet de 100 sols. Et beaucoup d'enfants dénoncent leurs parents, dont ils convoitent l'héritage. « Cette lettre, » reprit Guénaud, « émane d'une ci-devant Rochemaure, femme galante, chez qui l'on jouait le biribi, et portant en souscription le nom d'un citoyen Proline. Mais elle est réellement adressée à un émigré au service de Pitt. Je l'ai prise sur moi pour vous en communiquer ce qui concerne l'individu des Ilettes. » Il tira la lettre de sa poche. Elle débute par de longues indications sur les membres de la convention qu'on pourrait au dire de cette femme gagnée par l'offre d'une somme d'argent ou la promesse d'une haute fonction dans un gouvernement nouveau, plus stable que celui-ci. Et ensuite se lit ce passage. Je sors de chez M. Desilette qui habite près du Pont-Neuf, un grenier où il faut être chat ou diable pour le trouver. Il est réduit pour vivre à fabriquer des polichinelles. Il a des jugements, c'est pourquoi je vous transmets, monsieur, l'essentiel de sa conversation. Il ne croit pas que l'état de choses actuelles durera longtemps. Il n'en prévoit pas la fin dans la victoire de la coalition, et l'événement semble lui donner raison. Car vous savez, monsieur, que depuis quelque temps, les nouvelles de la guerre sont mauvaises. Il croirait plutôt à la révolte des petites gens et des femmes du peuple, encore profondément attachées à leur religion. Il estime que l'effroi général que cause le tribunal révolutionnaire réunira bientôt la France entière contre les Jacobins. Ce tribunal, a-t-il dit plaisamment, qui juge la reine de France et une porteuse de pain, ressemble à ce Guillaume Shakespeare, si admiré des Anglais, etc. Il ne croit pas impossible que Robespierre épouse Madame Royale et se fasse nommer protecteur du royaume. Je vous serai reconnaissant, monsieur, de me faire tenir les sommes qui me sont dues, c'est-à-dire 1000 livres sterling, par la voie que vous avez coutume d'employer, mais gardez-vous bien d'écrire à monsieur Morhart. Il vient d'être arrêté, mis en prison, etc., etc. Le sieur des Ilettes fabrique des polichinelles, dit Beauvisage. « Ah, voilà un indice précieux, bien qu'il y ait beaucoup de petites industries de ce genre dans la section. »« Cela me fait penser, » dit Delourmel, « que j'ai promis de rapporter une poupée à ma fille Nathalie, la cadette, qui est malade d'une fièvre scarlatine. Les taches ont paru hier. Oh, cette fièvre n'est pas bien à craindre, mais elle exige des soins. Et Nathalie, très avancée pour son âge, d'une intelligence très développée, et d'une santé délicate. Moi, dit Guénaud, je n'ai qu'un garçon. Il joue au cerceau avec des cercles de tonneaux et fabrique de petites montgolfières en soufflant dans des sacs. Bien souvent, fit observer Beauvisage, c'est avec des objets qui ne sont pas des jouets que les enfants jouent le mieux. Mon neveu Émile, qui est un bambin de 7 ans, très intelligent, s'amuse toute la journée avec de petits carrés de bois dont il fait des constructions. En usez-vous ? Et Beauvisage tendit sa tabatière ouverte aux deux délégués. « Maintenant, il faut pincer notre gredin, » dit Delourmel. qui portait de longues moustaches et roulait de grands yeux. Oh, il me sent l'appétit ce matin à manger de la fraissure d'aristocrate, arrosée d'un verre de vin blanc. Beau Visage proposa au délégué d'aller trouver dans sa boutique de la place Dauphine son collègue Dupont aîné, qui connaissait sûrement l'individu des Ilettes. Il cheminait dans l'air vif, suivi de quatre grenadiers de la section. « Avez-vous vu jouer le jugement dernier des rois ?» demanda de Lourmel à ses compagnons. « Oh, la pièce mérite d'être vue. L'auteur y monte tous les rois de l'Europe, réfugiés dans une île déserte, au pied d'un volcan qui les engloutit. C'est un ouvrage patriotique !» De Lourmel avisa au coin de la rue du Haller une petite voiture, brillante comme une chapelle, que poussait une vieille qui portait par-dessus sa coiffe un chapeau de toile cirée. « Bien, qu'est-ce que vend cette vieille » demanda-t-il. « La vieille, » répondit elle-même. « Voyez, messieurs, faites votre choix. Je tiens chapelet, rosaire, croix, image Saint-Antoine, Saint-Suaire, mouchoir de Sainte-Véronique, et Homo, Agnus Dei, corps et bague de Saint-Hubert et tous objets de dévotion. » « Mais c'est l'arsenal du fanatisme !» s'écria de Lourmel. Et il procéda à l'interrogatoire sommaire de la colporteuse qui répondait à toutes les questions. « Mon fils, il y a 40 ans que je vends des objets de dévotion. » Un délégué du comité de sûreté générale, avisant un habit bleu qui passait, lui enjoignit de conduire à la conciergerie la vieille femme étonnée. Le citoyen Beau Visage fit observer à de Lourmel que c'eût été plutôt au comité de surveillance à arrêter cette marchande et à la conduire à la section. Que d'ailleurs on ne savait plus quelle conduite tenir à l'endroit du ci-devant culte pour agir selon les vues du gouvernement et s'il fallait ou tout permettre ou tout interdire. En approchant de la boutique du menuisier, les délégués et le commissaire entendirent des clameurs irritées mêlées au grincement de la scie et au ronflement du sarrabot. Une querelle s'était élevée entre le menuisier Dupont aîné et son voisin, le portier Renacle, à cause de la citoyenne Renacle, qu'un attrait invincible ramenait sans cesse au fond de la menuiserie, d'où elle revenait à la loge couverte de copeaux et de sciure de bois. Le portier offensé donna un coup de pied à Mouton, le chien du menuisier, au moment même où sa propre fille, la petite Joséphine, tenait l'animal tendrement embrassé. Joséphine, indignée, se répandit en imprécations contre son père. Et le menuisier s'écria d'une voix irritée. « Misérable, je te défends de battre mon chien !»« Et moi, » répliqua le portier en levant son balai, « je te défends de... » Il n'acheva pas. La varlope du menuisier lui avait effleuré la tête. Du plus loin qu'il aperçut le visage beau citoyen Beau Visage, accompagné des délégués, il courut à lui et lui dit « Citoyen commissaire, tu es témoin que ce scélérat vient de m'assassiner !» Le citoyen Beau Visage, coiffé du bonnet rouge, insigne de ses fonctions, étendit ses longs bras dans une attitude pacificatrice et s'adressant au portier et au menuisier. « Sans sol, dit-il, à celui de vous qui nous indiquera où se trouve un suspect, recherché par le comité de sûreté générale, le ci-devant des Ilettes, fabricant de polichinelles. » Tous deux, le portier et le menuisier, désignèrent ensemble le logis de Brotteau, ne se disputant plus que pour l'assignat de 100 sols promis au délateur. De Lourmel, Guénaud et Beau Visage, suivis des 4 grenadiers, du portier Renacle, du menuisier Dupont et d'une 12 de petits polissons du quartier, enfilèrent l'escalier ébranlé sur leurs pas, puis montèrent par l'échelle du meunier. Brotteau, dans son grenier, découpait des pantins, tandis que le père Longuemare, en face de lui, assemblait par des fils leurs membres épars, et il souriait en voyant ainsi naître sous ses doigts le rythme et l'harmonie. Au bruit des crosses sur le palier, Le religieux tressaillit de tous ses membres. Non qu'il eût moins de courage que Brotteaux, qui demeurait impassible, mais le respect humain ne l'avait pas habitué à se composer un maintien. Brotteaux, aux questions du citoyen de Lourmel, comprit d'où venait le coup, et s'aperçut un peu tard qu'on a tort de se confier aux femmes. Invité à suivre le citoyen commissaire, il prit Lucrèce et ses trois chemises. « Le citoyen, dit-il, montrant le père Longuemare, est un aide que j'ai pris pour fabriquer mes pantins. Il est domicilié ici. » Mais le religieux, n'ayant pu présenter un certificat de civisme, fut mis avec Brotteaux en état d'arrestation. Quand le cortège passa devant la loge du concierge, la citoyenne Renacle, appuyée sur son balai, regarda son locataire de l'air de la vertu qui voit le crime aux mains de la loi. La petite Joséphine, dédaigneuse et belle, retint par son collier bouton qui voulait caresser l'ami qui lui avait donné du sucre. Une foule de curieux emplissait la place de Thionville. Brotteaux, au pied de l'escalier, se rencontra avec une jeune paysanne qui se posait à monter les degrés. Elle portait sous son bras un panier plein d'œufs et tenait à la main une galette enveloppée dans un linge. C'était Athénaïs, qui venait de Palaiseau, présenter à son sauveur un témoignage de sa reconnaissance. Quand elle s'aperçut que des magistrats et quatre grenadiers emmenaient M. Maurice, elle demeura stupide et demanda si c'était vrai, s'approcha du commissaire et lui dit doucement « Vous ne l'emmenez pas, ce n'est pas possible. Mais vous ne le connaissez pas, il est bon comme le bon Dieu. » Le citoyen de Lourmel la repoussa et fit signe au grenadier d'avancer. Alors Athénaïs vomit les plus sales injures, les invectives les plus obscènes sur les magistrats et les grenadiers qui croyaient sentir se vider sur leur tête toutes les cuvettes du palais royal et de la rue Fromenteau. Puis d'une voix qui remplit la pièce de Thionville tout entière et fit frémir la foule des curieux, elle cria « Vive le roi! Vive le roi !»